Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
Par la figue et par l'olive et par le mont Sinin et par cette cité sûre très certainement nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce vendredi 3 juin 2022. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Zéro mort du Covid-19 est atteint malgré les sanctions cruelles en Iran. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. À la une de ce journal, immeuble de métropole à Abadan, le président Raïssi s'est déplacé dans la ville méridionale de l'Iran pour examiner le processus de secours. Les positions contradictoires de Bennett, Tel Aviv préfère une option diplomatique avec l'Iran. Téhéran a promis de répondre fermement à toute action non constructive au Conseil des gouverneurs. Et puis l'Iran rejette l'allégation du FBI sur une cyberattaque. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le président Raïssi s'est déplacé à Abadan ce vendredi matin et a immédiatement visité l'immeuble effondré de Métropole. Le président Raïssi s'est rendu inopinément ce vendredi matin 3 juin et dans la rue Amir Kabir ou Amiri à Abadan, au sud de l'Iran, pour examiner de près les opérations d'enlèvement des débris et de secours suite à l'effondrement tragique d'un immeuble dans la ville. Au cours de la visite, il a parlé avec un certain nombre d'hommes d'affaires locaux et des personnes et s'est mis au courant de leurs problèmes. La plupart des cabinets médicaux, des pharmacies et des laboratoires sont situés rue Amiri à Abadan, autour du bâtiment Métropole. Cette rue est actuellement bloquée. Jusqu'à présent, les corps de 37 personnes ont été retirés des décombres de cette tour du 11e étage. 11 jours après l'incident, l'opération de déblayage se poursuit avec la mobilisation des installations et du matériel, ainsi que la présence de secouristes autour de la tour. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, est en visite en Israël, où il a rencontré le Premier ministre Naftali Bennett. L'Iran était un sujet principal de leurs entretiens. Aucune image n'a été publiée de la réunion. Israël a publié une déclaration disant qu'il préfère la diplomatie sur le programme nucléaire iranien. Le communiqué ajoute pourtant qu'Israël prendra des mesures nécessaires si la communauté internationale ne parvient pas à arrêter le programme dans les délais pertinents. Les fanfaronnades viennent malgré les avertissements répétés de l'Iran contre tout acte d'agression israélien. Le premier ministre ultrasioniste Bennett a accueilli Grossi 4 jours avant une réunion du Conseil des gouverneurs de l'AIOA sur l'Iran. La Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, toutes parties à l'accord multilatéral de 2015 avec l'Iran, prévoient de présenter une résolution appelant à une plus grande coopération de la part de Téhéran. Les États-Unis ont exprimé leur soutien à la résolution anti-iranienne. Téhéran a déjà mis en garde contre toute action non constructive lors de la réunion du Conseil des gouverneurs de l'AIOA prévue ce lundi. Il a promis une réponse forte et proportionnée. L'Iran a répété à maintes reprises que son programme nucléaire est à des fins pacifiques et dans le cadre de ses droits légitimes de bénéficier de la technologie nucléaire. L'Iran, qui est signataire du traité international de non-prolifération, pointe du doigt Israël pour avoir refusé d'adhérer à l'accord du TNP, traité de non-prolifération nucléaire. Les évolutions surviennent alors que les pourparlers sur la relance de l'accord iranien de 2015, en agonie, attendent une décision finale. Téhéran dit que Washington devrait prendre une décision politique pas facile. L'accord historique de 2015 s'est heurté à des difficultés après le retrait unilatéral des États-Unis de Trump en 2018 du pacte multilatéral. L'ingérence politique dans les affaires techniques de l'AIOA est totalement non constructive, déclaration du chef de la diplomatie Hossein Amir Abdollahian. Le ministre iranien des Affaires étrangères a qualifié de non constructive toute ingérence politique dans les affaires techniques de l'agence viennoise, soulignant la nécessité d'éviter les approches politiques et politisées lors de la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs de l'agence. Lors d'une conversation téléphonique avec son homologue singapourien, Vivian Balakrishanan, le ministre iranien des Affaires étrangères a abordé les relations bilatérales et des questions d'intérêt commun. Le ministre iranien a mis en garde à cette occasion contre toute ingérence contre-productive dans les fonctions de l'agence viennoise. Les rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont confirmé la nature pacifique du programme nucléaire iranien et des commentaires politiques hâtifs ne peuvent pas empêcher la progression des activités nucléaires iraniennes à des fins civiles, a-t-il souligné. Lors de la récente visite du directeur général de l'AIOA, Rafael Grossi, à Téhéran, les deux parties sont parvenues à un accord satisfaisant avec une tendance positive. Nous considérons que l'ingérence politique dans les affaires techniques de l'agence n'est absolument pas constructive, a prévenu Amir Abdollahian. Il a souligné à cette occasion le sérieux de la République islamique pour parvenir à un bon accord durable et solide et fiable avant d'indiquer « Un accord est possible si toutes les parties s'engagent dans la diplomatie et respectent leurs engagements en remplaçant la menace par le réalisme. » Plus loin dans ses déclarations, Amir Abdollahian s'attarde sur la crise ukrainienne et qualifie la cessation de la guerre, la diplomatie et le dialogue de solutions appropriées pour mettre fin à la crise. Pour sa part, le ministre singapourien a invité son homologue iranien à Singapour et a qualifié les relations entre les deux pays d'importantes. Sachez d'autre part que la Chine s'est dit opposée à une résolution anti-Iran du Conseil des gouverneurs. La Chine s'oppose aux tentatives des pays concernés de faire pression sur l'Iran en poussant le Conseil des gouverneurs de l'AIOA à adopter une résolution politisée, a déclaré jeudi le ministère chinois des Affaires étrangères par la voix de son porte-parole Zhao Lijian. Le ministère chinois des Affaires étrangères, jeudi, en réaction aux informations selon lesquelles les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne ont préparé un projet de résolution poussant le Conseil des gouverneurs à réprimander l'Iran lors de sa réunion du 6 juin, a déclaré que la Chine s'opposait aux tentatives des pays concernés de faire pression sur l'Iran en poussant le Conseil des gouverneurs à adopter une résolution anti-iranienne. Zhao Lijian a ajouté qu'exercer plus de pression sur l'Iran ne peut résoudre aucun problème et ne fera qu'aggraver la tension et compliquer la situation. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a noté que les négociations à Vienne sur la relance de l'accord en agonie de 2015 entre l'Iran et les puissances mondiales sont maintenant à un moment critique. Par conséquent, les mouvements de confrontation au Conseil des gouverneurs de l'AIOA ne feront que saper la coopération entre l'Iran et l'agence et perturber le processus du dialogue à Vienne, a-t-il averti. L'ambassadeur d'Iran à l'ONU a blâmé le Conseil de sécurité de l'ONU pour avoir manqué à sa responsabilité à l'égard de certaines violations graves du droit international, en particulier des sanctions illégales contre l'Iran. Majid Tartravanchi a déclaré au Conseil que certains États utilisent des mesures coercitives telles la méthode de guerre pour affamer des civils innocents dans le cadre de leur velléité intéressée. Le diplomate a souligné que les États-Unis ont ciblé l'Iran avec les sanctions économiques et financières les plus sévères qui mettent directement en danger la vie de la population vulnérable. L'ambassadeur d'Iran à l'ONU a déclaré que les sanctions avaient même causé la mort de certains patients iraniens, y compris des enfants, en raison des restrictions qui ont sapé la fourniture des médicaments et du matériel médical. Il s'agissait d'un débat ouvert au Conseil de sécurité de l'ONU sur le renforcement des engagements et de la réponse judiciaire pour les violations graves du droit international. L'Iran rejette l'allégation du FBI sur une cyberattaque. La mission permanente de l'Iran auprès des Nations Unies a rejeté jeudi catégoriquement une affirmation du FBI sur une cyberattaque iranienne contre un hôpital américain comme étant sans fondement. L'Iran lui-même est victime des cyberattaques américaines et israéliennes contre ses infrastructures, y compris ses installations nucléaires, a déclaré la mission iranienne. Les allégations avancées par le FBI est un exemple de guerre psychologique et de campagne de jeu du blâme contre l'Iran et n'a aucune valeur, a insisté la mission iranienne. Il a ajouté que la publication de fausses nouvelles environ un an après la cyberattaque présumée remettait en question l'affirmation. Les Yéménites sont descendus dans les rues de la ville de Saada au nord-ouest du pays pour protester contre l'agression continue menée par l'Arabie saoudite contre leur pays. Les manifestants ont scandé des slogans contre Riyad à la tête d'une coalition d'agression contre leur pays. Ils ont crié « mort à l'Amérique », condamnant les États-Unis pour leur soutien complice à l'Arabie saoudite dans la guerre meurtrière en cours. Le conflit a commencé il y a 7 ans. Selon l'ONU, des centaines de milliers de Yéménites ont été tués directement ou par des causes indirectes, comme la faim. De nombreux cessez-le-feu destinés à alléger les souffrances des civils ont échoué ces dernières années. La dernière trêve est entrée en vigueur en avril de cette année, mais les Yéménites se sont plaints de violations répétitives par l'Arabie saoudite. Les Nations Unies ont déclaré il y a 2 jours que les parties belligérantes du Yémen avaient accepté de renouveler une trêve de 2 mois négociée au début du mois sacré musulman du Ramadan afin d'améliorer la situation humanitaire critique dans le pays. La guerre en Ukraine entre dans son 100e jour ce vendredi. Les combats sont de plus en plus intenses dans l'est de la région du Donbass et autour de sa ville stratégique de Savarodonetsk. Les forces russes resserrent désormais leur emprise sur la région orientale du Donbass. La situation est tendue dans la ville. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que Severodonetsk et les communautés voisines sont les plus durement touchées. Selon le président ukrainien, environ 20% du territoire ukrainien, y compris la Crimée et les parties du Donbass saisies en 2014, sont désormais sous contrôle russe. Zelensky a appelé ses alliés occidentaux à fournir davantage d'armes. Les forces russes combattent également les Ukrainiens dans le nord du pays. Moscou nie avoir ciblé des civils et considère les infrastructures ukrainiennes utilisées pour livrer les armes occidentales comme des cibles légitimes. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Zéro mort du Covid-19 et atteint malgré les sanctions cruelles en Iran. Le président Raïsi a félicité la grande nation iranienne et le guide suprême de la révolution pour l'atteinte de 0 cas de décès par Covid-19, tout en commémorant les martyrs qui ont défendu la santé des gens et présentant leurs condoléances à tous ceux qui ont perdu des êtres chers à cause de la maladie. Le président Raïsi a publié un message jeudi soir à l'occasion des cas de décès de Covid-19, devenus zéro, louant le statut élevé des martyrs défendant la santé des gens et offrant ses condoléances à tous ceux qui ont perdu leurs proches à cause de la maladie, disant « Je suis sûr que les efforts et les sacrifices du personnel de santé et de chacun de l'honorable nation iranienne dans ce domaine grave resteront dans l'histoire du pays et dans la mémoire du peuple iranien reconnaissant. » Cette grande réalisation a été conquise dans une situation où notre pays a été confronté à de nombreuses sanctions oppressives de la part de certaines puissances, se réclamant des défenseurs des droits de l'homme, et a même entravé l'importation de médicaments vitaux et les installations sanitaires et médicales nécessaires au traitement de cette maladie. Mais grâce à la confiance et au recours à la force et à la capacité nationale et aux efforts et sacrifices inlassables du personnel médical et de la vaccination publique, le pays a obtenu un grand succès dans ce domaine et selon l'Organisation mondiale de la santé et les organisations internationales, l'Iran fait partie des pays qui ont pu prévenir et traiter le Covid-19. Je salue par la présente le statut élevé des martyrs qui défendent la santé du peuple et présente mes condoléances à tous ceux qui ont perdu des êtres chers à cause de la maladie. Et félicite la grande nation iranienne et le guide suprême de la révolution pour l'accomplissement. J'apprécie sincèrement les efforts des médecins, des infirmiers et de tout le personnel médical. Et je suis sûre que les efforts et les sacrifices du personnel de santé et de chacun de l'honorable nation iranienne dans ce domaine grave resteront dans l'histoire du pays et la mémoire du peuple iranien reconnaissant, a-t-il dit. Ce qui est important et que tout le monde doit y faire attention aujourd'hui, c'est que la gestion et le contrôle du coronavirus dans le pays ne signifient pas la fin de cette maladie et son éradication, mais de sérieux efforts doivent être faits pour se conformer pleinement aux protocoles sanitaires et achever le processus de vaccination publique afin que cette réalisation des défenseurs de la santé soit correctement protégée, lit-on toujours sur le message du président.
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat. Dans la nuit de 25 à 26 mai, plusieurs unités militaires turques ont franchi la frontière de la Syrie. L'artillerie de l'armée turque a pilonné en effet les positions dans différentes localités en banlieue d'Alep, sans pour autant aller attaquer en effet l'armée syrienne. Cette offensive intervient 48 heures après un discours du président turc Recep Tayyip Erdogan qui avait menacé en effet de lancer une offensive d'envergure dans le nord de la Syrie pour créer prétendument une zone de sécurité de 30 km le long de la frontière, mais aussi pour combattre les miliciens du PKK, parti des travailleurs en effet, du Kurdistan irakien. L'armée turque mène depuis la mi-avril des opérations dans le nord de l'Irak visant les positions du PKK et le chef d'État turc a en effet annoncé envisager une opération similaire dans le nord de la Syrie. Cette offensive intervient au moment où la Russie fait profil bas en Syrie en raison de la crise ukrainienne et au moment où, en effet, la Suède et la Finlande, en effet, ont remis leur demande d'adhésion à l'OTAN. Cette offensive intervient également après la visite du chef de la diplomatie turque en Israël. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons analyser ces derniers développements concernant la Syrie et l'offensive turque dans le nord de ce pays. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Quelques heures après le début de l'offensive turque contre le nord de la Syrie, où la Turquie a pour mission de créer de concert avec Israël une zone de sécurité de 30 km de long avant de s'emparer d'Alep et de s'offrir de quoi cibler la flotte méditerranéenne de la Russie, l'aviation russe a lancé un premier avertissement. Des avions de combat de la force aérospatiale russe ont effectué une série de frappes aériennes simulées au-dessus des zones occupées par la Turquie dans le nord-est de la Syrie. Les frappes aériennes simulées, qui ont commencé mercredi 25 mai tard dans la nuit et qui se sont poursuivies jusque lendemain matin, visaient la périphérie de la ville de Tel Abyad au nord de Raqqa et la ville de Ras Al Ain au nord de Hasakeh. Des sources locales ont signalé plusieurs fortes explosions dans le ciel. Les frappes aériennes russes étaient probablement destinées à envoyer un message à l'armée turque et à ses mandataires qui se prépareraient à lancer de nouvelles opérations à grande échelle dans le nord et le nord-est de la Syrie. Lors d'une conférence de presse suivant une réunion du cabinet tenue le 23 mai, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait fait part d'une opération militaire imminente en Syrie destinée à relier deux zones déjà sous le contrôle des Turcs. Une nouvelle opération turque dans le nord et le nord-est de la Syrie violerait plusieurs accords de désescalade signés avec la Russie et risque de déclencher une confrontation directe entre l'armée syrienne et les forces d'occupation turques. La Russie ne s'est pas encore officiellement exprimée à propos d'une intervention dans le conflit entre la Turquie et la Syrie. Cependant, étant donné que la Syrie est l'un des alliés les plus importants de Moscou dans la région, la Russie s'opposera catégoriquement à toute nouvelle opération turque. Alors que le ciel syrien se barricade quasi hermétiquement, reste à savoir si Erdogan est la partie qui pourrait l'aider à inverser cette tendance. Quant à la réaction russe contre cette convoitise anti-Alep, anti-Tartus, elle pourrait s'illustrer par un S-300 en colère qui chasserait les FCS turcs, voire sionistes. Après tout, aussi bien la Turquie qu'Israël ont déjà abattu des avions russes dans le ciel de la Syrie.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Permettez-moi de vous présenter tout de suite nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Damas avec Maître Arnaud Develay, juriste international et analyste politique, et depuis Paris avec Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne des questions internationales. Madame Armidani, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci de votre invitation. Et bonjour à Monsieur Develay, votre invité.
Madame Armidani, une nouvelle offensive turque dans le nord de la Syrie dans la nuit de mercredi à jeudi. L'artillerie turque qui a pilonné plusieurs localités à proximité, en effet, d'Alep. Comment s'explique-t-elle cette nouvelle convoitise turque? Est-ce que là, il s'agit d'une nouvelle velléité expansionniste du président Erdogan en pleine crise ukrainienne, au moment où les tensions, comme vous le savez, montent au sein de l'OTAN à cause de l'adhésion de la Finlande et de la Suède, et la Turquie a menacé de faire barrage justement à cette adhésion, et d'autant plus que cette nouvelle opération, cette nouvelle offensive en effet, intervient alors quelques jours après la visite du chef de la diplomatie turque en Israël.
Alors en fait, les velléités d'expansion de Erdogan ne sont pas nouvelles. Il a toujours été, je rappelle quand même que la Turquie a été un petit peu réellement la tête de pont de l'agression contre la Syrie depuis 2011. que c'est par la Turquie que tous les terroristes ont filtré dans par la frontière turque, en fait, sont arrivés en Syrie, que la Turquie a dirigé et dirige toujours des hordes terroristes dans le nord de la Syrie, tout ça sous prétexte de lutter contre les Kurdes en nord de la Syrie. Je voudrais rappeler quand même que la Turquie est un pays, est une force importante de l'OTAN, donc obéit aux ordres américains, puisque c'est les États-Unis qui dirigent l'OTAN, d'une part. D'autre part, de la même manière d'ailleurs qu'Israël et vice-versa. D'un autre côté, l'offensive turque sur la Syrie, sur les frontières syriennes, n'est pas nouvelle, donc elle date bien depuis 2011, que cette histoire de zone de sécurité à l'intérieur de la Syrie a été brandie au début de l'agression contre la Syrie. Elle a été contenue et limitée effectivement par les accords d'apaisement qui ont été menés par la Russie. Il est clair que à chaque fois que la Turquie ou les terroristes perdaient du terrain, la Turquie venait à leur rescousse, d'une part. D'autre part, ils prétendent aussi être contre les forces dites kurdes de Qassab et opposé à la création d'un État kurde dans le nord de la Syrie et donc opposé à la séparation ou au dépeçage de la Syrie. Ils ont quand même signé tout un tas de traités, et notamment ils ont signé Astana qu'ils n'ont jamais, et les accords d'Astana qu'ils n'ont jamais appliqués. Ils ont signé des accords dans lesquels ils s'engageaient à sortir, à dégager les autoroutes M4, M5, et puis pousser les terroristes à l'extérieur à 6 km de part et d'autre de ces autoroutes, chose qui n'a rien été, et il n'en a rien été. Je rappelle qu'en 2018-2019, l'armée arabe syrienne a gagné aussi, elle s'est engagée dans des combats très important aussi avec les terroristes à Jisr Shghour et à Riha dans le nord d'Idlib. Erdogan est allé quémander un entretien à Poutine, et au cours duquel le 5 mars, justement, cet accord a eu lieu. Justement où il devait s'engager, et il avait délai jusqu'en juin de 2019 pour se retirer, mais il n'a jamais appliqué tous ces accords qu'il a signés, honoré les traités qu'il a signés au sein des accords d'Astana et des zones d'apaisement. Donc en fait, il est clair que Erdogan traite aussi avec les Israéliens. L'objectif, c'est aussi un peu encercler la Syrie. Et ça, c'est très grave. En fait, là, aujourd'hui, il se sent encore plus fort du fait que la Russie est occupée peut-être avec l'Ukraine. Mais à mon avis, il se trompe parce que de toute façon, la Russie honore aussi tous ses engagements, et à propos de la Syrie, ça va se retourner contre la Turquie, en fait, qui joue aussi un mauvais jeu ou un sale jeu vis-à-vis de la Russie, aussi bien vis-à-vis de l'Ukraine, puisqu'ils fournissent des avions et des munitions aussi.
Merci, Madame Zelensky,
au régime de Zelensky. Et puis, d'un autre côté, il joue aussi de l'autre côté, ils essayent de jouer quand même pour la Russie, en s'opposant à l'accès de la Finlande et de la Suède à l'OTAN.
Merci, donc, Madame Medeni. Je vous remercie infiniment pour ces précisions. Restez avec nous. On va tout de suite rejoindre Damas, Maître Arnaud Develle, juriste international. Maître Develle, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous.
Oui, bonjour à vous et bonjour à Madame Medeni.
Alors, concernant toujours cette nouvelle offensive turque dans le nord de la Syrie, Madame Medeni l'a rappelé, elle viole bien sûr plusieurs accords de désescalade signés avec la Russie. Dans quel contexte replacez-vous, Maître Develle, ce nouveau jeu du président Erdogan? Est-ce que là, il y a une coordination, une connivence entre les États-Unis et Israël concernant cette nouvelle offensive turque?
Écoutez, je pense que cette coordination n'a jamais vraiment cessé. Erdogan avait, au travers de l'opération Rameau d'Olivier, tenté de procéder, et il a réussi en grande partie à une forme de nettoyage ethnique dans les zones envahies par l'armée turque. L'idée étant de préparer le terrain, si je puis dire, pour ce que le président turc a annoncé, sous couvert, bien sûr, c'est toujours un peu le même mantra, se protéger des actions terroristes du PKK. Ce qui laisse un peu penser que quelque part, il prend ses leçons à Washington. Vous l'avez souligné, en même temps, la coordination avec les Israéliens est évidente. Mais j'allais dire aussi avec le Qatar, puisque nous avons eu des rapports récents, de rencontres haut niveau entre les cadres de la soi-disant armée syrienne libre. Et on sait maintenant que l'objectif, en ce qui concerne cette opération, qui pour l'instant est au stade de préparer l'opinion publique turque pour la réinjection de près d'un million de réfugiés, mais plutôt pro-Ankara, dans la région en question, fusionner les commandements de HTS, donc Al-Nusra, Al-Nusra en Syrie, Al-Qaïda en Syrie, et donc l'ASL. On peut penser que si cette opération venait à prospérer, entre guillemets, cela poserait bien sûr un problème stratégique important pour Damas, parce que cette zone pourrait alors être une rampe de lancement pour la résomption d'opérations visant à opérer la politique du changement de régime, mais aussi pour la Russie, bien sûr, puisque étant à quelques encablures des bases russes, n'oubliez pas que l'objectif de l'OTAN, c'est aussi d'éjecter et d'expulser la Russie de la région. Donc, tout ça est cousu de fil blanc. On peut ajouter que, quelque part, en s'emparant aussi si je puis dire, des ressources de portes sur l'eau, Erdogan viole aussi le droit humanitaire, les conventions de Genève, les conventions de La Haye, et que dans ce contexte-là, il s'est affranchi maintenant, bien sûr, non seulement de toutes ses obligations internationales, plus précisément, comme l'a souligné Dr Midani, des accords d'Astana qu'il avait signés il y a à peine 2 ans et demi de cela, mais aussi qu'il joue un jeu, effectivement, parce que tout est connecté entre la Syrie et l'Ukraine. Je renverrai nos auditeurs à la doctrine énoncée par la Fondation Rand, hein, qui consiste aussi à créer tous ces théâtres d'opération pour épuiser la Russie, et que dans ce contexte-là, avec effectivement l'annonce de la volonté d'adhésion à l'OTAN de la Finlande et de la Suède, on retrouve encore le bon opératoire d'Erdogan, qui est initialement laisser entendre qu'il s'opposera à ces adhésions, mais c'est pour mieux en fait annoncer la couleur qu'il veut négocier et il veut quelque chose en retour. Alors, on a entendu dire qu'il y avait eu des rumeurs qui circulaient selon lesquelles il avait approché le président russe en lui disant « tu me donnes la carte, le chemin libre, la voie libre à Idlib et j'appose mon veto ». On peut penser que c'est de la désinformation puisque l'État russe est très légaliste et en aucun cas ne se laisserait tenter quant à violer ses propres engagements vis-à-vis de Damas.
Merci.
Mais vous voyez, c'est un peu le mode opératoire d'Ankara et en ce contexte-là, on est en pleine doctrine Erdogan, si je puis dire.
Merci pour ces éclairages. Maître de Velay, restez avec nous, s'il vous plaît. Madame Ideni, quelles seront les répercussions sécuritaires et stratégiques de la nouvelle offensive turque dans le nord de la Syrie? Alors, vous avez rappelé tout à l'heure, peut-être en raison de la crise ukrainienne, alors la Russie alors, serait en quelque sorte contrainte de retirer ses forces, d'une partie au moins de ses forces de la Syrie. Donc, mais cela a permis, bien sûr, selon de nombreux observateurs à la République islamique d'Iran, de renforcer la DCA donc de l'armée syrienne. Est-ce que là, cela ne risque pas de déclencher une confrontation directe entre l'armée turque et l'armée syrienne?
Écoutez, je crois que depuis un certain temps, effectivement, il y a des provocations turc, en fait, vis-à-vis de la Syrie, les bombardements incessants des villages de la frontière syrienne, aussi bien du côté de Ras el Ain que du côté de Hasakeh, et aussi du côté d'Alep, hein, ils ont été vraiment incessants. Cette opération, je crois, qui vise effectivement à élargir d'ailleurs même l'influence, les lieux d'influence turcs à l'intérieur de la Syrie, ajouté au fait qu'il y ait eu des constructions de maisons qui ont été distribuées aussi soi-disant aux réfugiés syriens à l'intérieur de la Syrie, et que c'est un véritable changement ethnique, je dirais, des territoires aux frontières de la Syrie, aux frontières syriens, aux frontières de la Turquie. Donc, en fait, effectivement, je crois que de toute façon, on va vers une confrontation totale avec l'armée turque, qui, malheureusement, jusqu'à maintenant, a été plus ou moins stoppée par nos amis russes pour des considérations, en fait, d'apaisement, justement, et puis de résolution, je dirais, un peu pacifique, évitant et évitant vraiment des grosses destructions, comme c'est effectivement dans la doctrine russe et d'ailleurs même la doctrine syrienne, qui est la patience stratégique et qui a donné ses résultats par rapport à la population. Or, aujourd'hui, effectivement, les Turcs, Erdogan est impatient parce que la progression d'une part de la résistance populaire en Syrie a augmenté de manière assez importante. De l'autre côté, les réconciliations et puis l'effet de cette loi d'amnistie qui a été faite par le président Assad fait que nombreux combattants, en fait, entre guillemets, nombreuses personnes qui étaient obligées de se battre aux côtés d'Assad et aux côtés des terroristes rejoignent l'armée arabe syrienne maintenant et reviennent dans le giron de la patrie, chose qui est une véritable victoire, je dirais, sociale, qui vide le mouvement Assad de sa substance. Et de ce fait, d'ailleurs, je rappelle quand même qu'au-delà même des attaques militaires, il y a le vol et le pillage des ressources syriennes, de blé, de coton, du pétrole syrien et du gaz syrien qui aujourd'hui sont pillés ouvertement par les Américains, mais qui avant étaient soi-disant pillés par les terroristes, mais qui transitaient vers la Turquie et qui profitaient.
Merci, Madame Deni.
Aux entreprises du fils de Erdogan, oui. De Bilal Erdogan. Donc, Tout ceci est dur depuis 10 ans.
Merci, Madame Bidani.
Là, effectivement, on va finir par peut-être une confrontation, mais je crois que la Syrie évite cette confrontation aussi pour qu'il n'y ait pas beaucoup de victimes civiles. Ce sont des régions, quand même, il faut savoir, qui sont pas seulement des régions riches et importantes, mais aussi des régions où il y a beaucoup qui sont peuplées par
Merci, les Madame Bidani.
Ils sont bien, bien peuplés.
Merci infiniment. Une toute dernière question à Maître de Velay. Maître de Velay, il nous reste 2-3 minutes. Il semblerait qu'il existe un projet, en effet, commun entre Israël, entre la Turquie d'une part et d'autre part l'OTAN des américano-israéliens, à savoir contrer, en effet, la DCA à intégrer et renforcer de la Syrie, épaulée bien entendu par l'Iran. Alors, qu'est-ce qui va sortir de cette confrontation, de ces combats, de ces affrontements, au moment où, comme vous le savez, l'armée israélienne a également multiplié ces derniers temps ses frappes aériennes contre la Syrie?
Bah, écoutez, le temps est difficile à prévoir. Ce que l'on sait de manière certaine, c'est que l'incise, si je puis dire, de cet renouvellement, de cette réactivation du plan qui vise à effectuer un changement de régime, passera par la Turquie. Et en cela, je rejoins tout à fait Mme Bidani quand elle dit que Erdogan s'impatiente. Pourquoi ? Parce qu'en interne, il est confronté à une situation économique catastrophique, ce qui explique tous ses voyages dans la région récemment, où il a tenté de se rapprocher avec les Saoudiens, mais aussi avec les Israéliens, vous l'avez souligné. Et dans ce contexte-là, cette politique, si je puis dire, ambivalente qu'il cultivait depuis environ 4-5 ans, commence de moins en moins à lutter, si je puis dire. Il est obligé de revenir dans le giron. Et je pense que, eu égard à effectivement cette situation à laquelle il est confronté, n'oublions pas que les élections présidentielles auront lieu l'année prochaine en Turquie, que c'est supposé marquer le centenaire de la révolution turque, donc c'est quelque chose qui a à cœur à Erdogan, et je pense que dans ce contexte-là, il a à cœur de, si je puis dire, évacuer une partie de la pression interne dans ce projet de colonisation au nord de la Syrie, mais au-delà de ça, maintenant, c'est quelque chose qui nécessiterait un financement pérenne de la zone en question, et cela, la Turquie n'a pas les moyens de le faire. Donc, on peut penser qu'une fois le processus de colonisation, la rampe de lancement, puisqu'il s'agit d'une rampe de lancement, sera activée avec l'idée de s'emparer de davantage du territoire syrien.
Merci infiniment, Maître Arnaud Develay, juriste international depuis Davos. Je remercie également Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrien des questions internationales, qui était en ligne avec nous depuis Paris. Merci infiniment de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Lentement mais sûrement, le nouveau RIC, Russie-Iran-Chine, par opposition à l'ancien RIC des BRICS, Russie-Inde-Chine, tente d'intégrer des systèmes financiers. L'Iran est une question de stratégie de sécurité nationale pour la Chine en tant que fournisseur d'énergie et partenaire essentiel de l'initiative Ceinture et Route en Asie occidentale. La relation Russie-Chine, en revanche, est beaucoup plus complexe. Craignant fortement de provoquer les sanctions américaines, les banques chinoises s'abstiennent, du moins pour le moment, d'accroître leurs transactions avec les banques russes, ce qui nous amène au cas d'Union Pay. Le fournisseur chinois de cartes bancaires, de plus en plus populaire, notamment en Asie, a refusé de s'associer à Sberbank avant même que la plus grande banque russe ne soit exclue par l'Union européenne et les États-Unis de la plateforme mondiale de messagerie bancaire SWIFT.
UnionPay a également annulé ses plans avec d'autres banques russes pour émettre des cartes UnionPay liées au système de paiement russe Mir, profitant du retrait de Visa et Mastercard du marché russe. La Chine doit encore trouver un équilibre prudent. Au début de cette année, lors du forum de Boao en Asie, le président Xi Jinping s'est opposé catégoriquement à l'utilisation gratuite de sanctions unilatérales. Et plus de 80% des entreprises chinoises déjà établies en Russie semblaient vouloir poursuivre leurs activités comme si de rien n'était. Pourtant, sur le plan pratique, de sérieux problèmes s'opposent. La Banque de Chine et la Banque industrielle et commerciale de Chine ont restreint le financement des produits de base russes. Même la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures absolument essentielles pour les projets de développement durable liés ou non à la BRI a décidé de geler tout prêt à la Russie et à la Biélorussie au début du mois de mars afin de sauvegarder son intégrité financière. Sur le plan financier, les banques chinoises prudentes, qui ont une énorme exposition à l'Ouest, doivent toujours tenir compte du fait que près de 80% des transactions transfrontalières mondiales se font encore en dollars et en euros, et seulement 2% en yuan. Le marché russe n'est donc pas vraiment une priorité. En parallèle, le franc Russie-Iran est assez animé. Ils accélèrent les règlements mutuels dans leur monnaie nationale pour atteindre le niveau le plus élevé possible, comme l'a souligné le vice-premier ministre Alexandre Novak. Nous avons discuté avec les banques centrales de la diffusion et du fonctionnement du système de messagerie financière, ainsi que de la connexion des cartes de paiement MIR et Chetap. À l'heure actuelle, la carte MIR n'est toujours pas acceptée en Iran, mais cela est sur le point de changer. Tout comme en Turquie, qui commencera cet été à accepter les paiements par carte MIR des légions de touristes russes. En pratique, cela signifie que la Russie et l'Iran vont connecter leurs banques au système de transfert de messages financiers, l'équivalent russe de SWIFT. Les Chinois examineront évidemment la fluidité de la transition. Comparez maintenant tout ce qui précède avec la perspective qu'il n'y aura bientôt plus de SWIFT du tout, comme l'a laissé entendre le PDG de Mastercard à Davos. Miebach participait à un panel sur les monnaies numériques des banques centrales et discutait des paiements transfrontaliers lorsqu'il a suggéré que SWIFT pourrait bientôt appartenir au passé. Cela ne fait aucun doute. Moscou s'intéresse déjà aux crypto-monnaies et aux monnaies numériques et Pékin est bien décidé à mettre en place le yuan numérique pour contourner SWIFT et son système CHIPS. Le franc Russie-Iran évolue rapidement depuis janvier de cette année, lorsque le président iranien Ebrahim Raisi, en visite à Moscou, a remis à Poutine un projet d'accord de coopération stratégique pour les 20 prochaines années. S'appuyant sur la très bonne expérience de coopération entre l'Iran et la Russie en Syrie dans la lutte contre le terrorisme et s'étendant à l'économie, la politique, la culture, la science, la technologie, la défense et les sphères militaires, ainsi que les questions de sécurité et d'espace. M. Raisi a également remercié explicitement Poutine pour avoir facilité l'entrée de Téhéran dans l'OCS. Le ministre iranien du pétrole Javad Oji est allé droit au but lors de sa rencontre avec Novak à Téhéran la semaine dernière. Nos pays sont soumis à des sanctions strictes et nous avons la possibilité de les neutraliser grâce au développement des relations bilatérales. Nous avons créé des comités conjoints sur les questions bancaires, énergétiques, de transport, d'agriculture, ainsi que sur la question de la création de centrales nucléaires. Et cela nous ramène une fois de plus à l'éternel feuilleton des pourparlers du plan d'action globale conjointe basé à Vienne. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, signalant que le projet final est à un haut degré de préparation pour l'adoption. Il existe quelques problèmes politiques qui ne sont pas liés à la finalisation du texte. Traversant l'habituel brouillard de la propagande américaine, Ryabkov a souligné qu'en ce qui concerne nos intérêts, notamment dans le contexte de la coopération nucléaire pacifique avec l'Iran, le texte est tout à fait satisfaisant. Il n'y a rien à peaufiner. ainsi que lorsque les Américains disent que l'accord est hors de portée. A ajouté Ryabkov, cela signifie qu'ils diffusent les résultats de leurs discussions internes. En définitive, sur l'accord sur le nucléaire iranien, Téhéran et Moscou sont en phase. Nous sommes ce qu'on appelle sur le fil, et cela pourrait arriver très vite si la décision politique est prise. Développant leur synchronisme, Téhéran a même proposé d'accueillir les négociations entre Moscou et Kiev sur le conflit ukrainien, suivant l'exemple turc. Cependant, après l'échec d'Ankara, il est clair que les décideurs de Washington ne veulent pas de négociations, mais une guerre sans fin jusqu'au dernier ukrainien. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, reste en phase avec son homologue Sergueï Lavrov. À Davos, il a déclaré que le drame ukrainien était dû aux sanctions provocatrices des États-Unis et de l'OTAN. Ils ont provoqué le Kremlin. C'est essentiellement ce que Pékin a discrètement laissé entendre. Tout ce qui précède montre certaines des preuves et des tribulations de l'intégration de l'Eurasie, ainsi que le chemin long et sinueux vers un nouveau système monétaire. Mais commençons par le commencement. Il doit y avoir de l'action sur le front de Mir Union Paix. Lorsque cette nouvelle sera connue, les dés seront jetés.
Thank you.